Vous écoutez France Culture.
Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Un avion avec à son bord des policiers italiens décollés de Rome il y a quelques heures à destination de la Bolivie où a été arrêté l'écrivain et militant d'extrême gauche Cesare Battisti. Nous nous rendrons à Sao Paulo et à Rome. La campagne des européennes avec dévoilée dans l'après-midi la liste du Rassemblement National, précision de Steven Goyer. Le RN ne pouvait rêver meilleure configuration que celle d'une mobilisation populaire qui, dans la durée, étrille l'élite politique et le pouvoir. Au lendemain d'un acte neuf des Gilets jaunes moins violent que les précédents et à l'avant-veille d'un grand débat national, très peu de commentaires émanant de la majorité comme du gouvernement, analyse d'Élodie Rabel. Et puis à la fin de cette édition, la face cachée du Globe signée Nabila Hamel, une face cachée qui s'attarde sur le retour massif au pays de milliers d'Afghans vivant en Iran. Selon plusieurs médias brésiliens, c'est dans la ville bolivienne de Santa Cruz de la Sierra que Cesare Battisti était intercepté. Il était en possession d'un document d'identité brésilienne. Ce Brésil que l'ancien militant du groupe d'extrême gauche avait gagné en 2004 après avoir passé 15 ans en France. Depuis quelques heures, l'entourage du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, jubile. Nous sommes en ligne de Sao Paulo avec Thierry Ogieri de RFI. Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry. Oui, bonjour.
Donnez-nous un reflet des dernières déclarations de la classe politique brésilienne.
Oui, effectivement, les réactions ne se sont pas faites attendre. Tout d'abord, Eduardo Bolsonaro, le fils du président Jair Bolsonaro, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Il écrit « Ciao Battisti, la gauche est en pleurs ». Donc déjà, vous le voyez, un ton provocateur de la part d'Eduardo Bolsonaro, qui a été élu député fédéral et qui est très actif, il faut le soulever, qui a été très actif en matière de politique étrangère. Il vient à ce titre d'effectuer une visite très remarquée aux États-Unis pour souligner la proximité de la nouvelle administration brésilienne avec Donald Trump. Même chose avec l'Italie. Eduardo Bolsonaro parle de petits cadeaux. Le Brésil n'est plus une terre de bandits, dit-il sur Twitter. Matteo Salvini, le petit cadeau va bientôt arriver. Matteo Salvini, c'est le ministre de l'Intérieur du gouvernement italien, un gouvernement qui partage les mêmes positions idéologiques que le gouvernement de Jair Bolsonaro. Et puis à noter aussi la déclaration de l'ambassadeur d'Italie au Brésil, Antonio Bernardini. Battisti arrêté, dit-il, la démocratie est plus forte que le terrorisme.
Merci à vous Thierry Ogieri de RFI en direct de Sao Paulo. Que représente véritablement Cesare Battisti pour la classe politique italienne? La justice a classé le groupe au sein duquel il militait les prolétaires armés pour le communisme comme terroriste. Un groupe dont les actions ont mêlé braquage et assassinat politique. Cesare Battisti s'est évadé de prison en 1980 après avoir été condamné à 12 ans d'emprisonnement. S'est réfugié en France puis au Mexique. Il fait aujourd'hui clairement figure de trophée politique pour l'extrême droite italienne. Marie Duhamel nous appelle de Rome.
La fête est finie. L'éternel mot d'ordre de Matteo Salvini barre cette fois sur Twitter une photo de Cesare Battisti détendu sur une plage. Le ministre italien de l'Intérieur se réjouit du changement politique au Brésil qui a permis aux fugitifs cajolés par les gauches d'être finalement capturés. Ce délinquant mérite, dit-il, de finir en prison, lui qui pendant trop longtemps a joui d'une vie qu'il a retirée à d'autres. Fini les querelles de gouvernement, le ministre 5 étoiles de la justice s'exclame « Justice est faite », heureux de pouvoir exprimer sa joie après 25 ans d'attente. Symbole des années de plomb de délinquants, un militant armé extrême gauche, Cesare Battisti a fui son pays il y a 37 ans. En 1993, il y a été condamné par contumace à la prison à vie pour 4 homicides. En Italie, tous connaissent son nom. Et ce matin, son arrestation est unanimement saluée par la classe politique. L'ancien président du Conseil, Matteo Renzi, parle d'une belle journée. On attend maintenant son extradition. Mais aura-t-elle lieu ? S'interroge le fils d'une victime. Je n'ose imaginer qu'il puisse encore trouver un escamotage.
Marie Duhamel à Rome. Le parquet de Paris a livré en milieu de matinée un bilan définitif du nombre de gardes à vue pour la journée d'hier. 155 gardes à vue après les défilés et rassemblements de gilets jaunes. Voilà qui donne la mesure des violences répertoriées, baisse sensible à Paris comme ailleurs. Le ministre de l'Intérieur a sobrement félicité la troupe, sans aucun autre commentaire, comme pour offrir une respiration à l'exécutif qui, à la hâte, boucle le kit méthodologique qui va servir de boussole aux meneurs du grand débat de mardi. Tout juste a-t-on eu droit ce matin au propos du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui, chez nos confrères d'Europe 1, déclare « Rien ne sera pareil après ce grand débat ». Fin de citation. Bonjour Élodie Rabel.
Bonjour.
Élodie, enjeu de taille que ce débat pour le gouvernement, invité, semblerait-il, à la retenue, à la veille, il faut le rappeler, de la lettre du président aux Français.
Il est permis de considérer que cet acte 9 est un réel succès pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est d'ailleurs ce que constate le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur Twitter. Le gouvernement d'Emmanuel Macron fait face à une opposition qui ne vient pas des bancs de l'Assemblée, mais bel et bien de la rue. Cette opposition citoyenne se montre plus structurée, plus cohérente, disciplinée et déterminée à faire valoir des revendications qu'on ne peut plus ignorer. En ce sens, la semaine qui vient est cruciale pour le gouvernement qui doit trouver une sortie à ce conflit social qui tient dans la durée. À l'Élysée, Emmanuel Macron peaufine la lettre qu'il adressera demain aux Français pour cadrer le grand débat national dont il donnera le coup d'envoi mardi à Grand-Bourgtheroulde dans l'heure. Certains presseraient le chef de l'État de profiter de ce courrier pour annoncer l'organisation d'un référendum qui viendrait conclure ce grand débat. Pour autant, on ne peut pas dire que les choses se présentent au mieux. Polémique sur les personnes chargées de piloter le débat, de sa présidente Chantal Jouanneau au parlementaire référent. Polémique aussi sur les questions autorisées et celles qui restent interdites. Édouard Philippe cherche désormais un ou plusieurs garants incontestables pour assurer l'impartialité des débats. Il en présentera demain les modalités. Polémique encore quand certains maires annoncent qu'ils n'ont nulle envie de se laisser entraîner dans cette organisation. Et côté Gilets jaunes, ce grand débat est vu comme un piège politique pour reprendre les mots de la lettre ouverte lue lors de l'acte 8. Alors effectivement, Mathieu, dans l'attente de ces rendez-vous, on n'entend pas ou peu les cadres de la majorité. Une manière en somme de laisser l'espace médiatique à Emmanuel Macron, c'est aussi ça, avoir le sens de l'effort.
Merci à vous, Élodie Rabel. L'enracinement de la contestation en mode élite versus le peuple sur fond de clivage droite-gauche élimé est une aubaine politique pour le Rassemblement National qui lance aujourd'hui sa campagne pour les élections européennes. Les noms des 12 premiers candidats sur la liste doivent être dévoilés à 15h à la Maison de la Mutualité à Paris. La tête de liste Jordan Bardella, 23 ans, lance ce matin « Le contexte national fera l'élection ». Sur cette liste RN figurent également deux prises de guerre, deux récents transfuges venus des Républicains, le magistrat Jean-Paul Garot et l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani. Stephen Goyer, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Stephen, le paysage politique, on le voit, poursuit sa mue de la droite à l'extrême droite.
Après la recomposition venue sur l'aile gauche des Républicains, les départs d'Alain Juppé ou Xavier Bertrand, par exemple, place à celle de l'aile droite. Pas forcément une surprise en soi, puisque Thierry Mariani avait toujours incarné la ligne dure du parti. Un homme qui pourrait donc bien servir de passerelle entre les deux mouvements. Désormais, Thierry Mariani en appelle même aux militants de son ancien parti.
Je dis aux militants des Républicains, on vous gâche. On reste dans une stratégie qui est la même depuis 30 ans. Ça consiste à dire on ne veut pas de rapprochement avec le Rassemblement national. Donc en clair, ça signifie qu'une alternative, ce sera avec une alliance avec les centristes. Or, pendant des années, la droite a proposé des programmes très fermes, etc., mais sans jamais les appliquer parce qu'à chaque fois, nos alliés centristes nous en empêchaient. Je dis aux militants, les Républicains, réfléchissez. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment que vos idées soient appliquées, il faut changer d'alliance.
D'autant plus que si l'on se fie au sondage, le transfert est un bon pari pour Thierry Mariani, avec un Rassemblement national donné en tête des intentions de vote pour le prochain scrutin. Sa place d'ailleurs lors des précédentes élections européennes, mais avec cette fois-ci, en plus de la vague gilet jaune en France, un contexte assez favorable au parti populiste.
C'est vrai que pendant les précédentes mandature, le groupe qui défendait une certaine conception des nations face à une certaine conception de l'Europe était extrêmement minoritaire. Là, les choses vont changer. Marine Le Pen et Salvini sont très proches, les Polonais, les Tchèques, etc. Tout ça peut faire un groupe extrêmement important au Parlement européen. Le mouvement qui existe en France existe dans d'autres pays.
Bémol toutefois pour Thierry Mariani. Côté Rassemblement National, sa vision très libérale de l'économie ferait déjà grincer quelques dents. Et puis ses déclarations passées sur le Front National, parti de posture et de slogan, avait-il par exemple déclaré, pourraient rendre ses prises de parole beaucoup plus compliquées.
Merci à vous, Stephen Goyer. Dans l'actualité internationale, cette information, le ministre grec de la Défense, Panos Kamenos, a démissionné ce matin pour protester contre l'accord qui a mis fin au contentieux entre la Grèce et la Macédoine à propos du nom de l'ancienne République de la Fédération Yougoslave. Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, vient tout juste de demander un vote de confiance au Parlement et au plus vite. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Juge à la Cour suprême du Nicaragua, Rafael Solis est devenu vendredi la première personnalité proche du président Ortega à avoir jeté l'éponge. Dans sa lettre de démission, le magistrat sandiniste a dénoncé l'état de terreur créé par le couple présidentiel. Le Nicaragua connaît un mouvement de contestation qui vise le président et son épouse, accusés de népotisme et de corruption. Depuis près de 9 mois, les troubles dans ce pays ont fait 320 morts, tandis que l'on chiffre à 600 le nombre de manifestants arrêtés, dont la moitié condamnés à de lourdes peines pour terrorisme. Ils ont planté des yourtes sur une place d'Ulaanbaatar et étaient des milliers à manifester jeudi pour exiger la démission du président du Parlement. C'est la deuxième fois depuis la fin décembre que des Mongols protestent contre les scandales de corruption et de détournement de fonds qui implique les responsables politiques du pays. Donald Trump a ordonné la suspension des fonds d'aide d'urgence à la Californie destinés à la lutte contre les feux de forêt et la gestion des parcs. L'État, dirigé par les démocrates, a connu en novembre dernier des incendies meurtriers, 86 morts, et dévastateurs, 62 000 hectares partis en fumée. La Californie est confrontée depuis plusieurs années aux effets d'une sécheresse récurrente, vraisemblablement liée au réchauffement climatique. Il n'a pas encore pris sa décision, mais l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédier, 86 ans, n'écartait pas jeudi l'idée d'être dans la course pour l'élection présidentielle de 2020. Il évoquait dans ce cas une éventuelle alliance avec l'ancien chef rebelle Guillaume Soro ou avec le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo avec qui il est en pourparlers. Henri Konan Bédier se pose en ce moment en rassembleur de l'opposition ivoirienne. Des milliers d'Afghans ont quitté l'Iran et sont rentrés chez eux. Il y a moins ou carrément plus de travail pour eux dans un Iran en pleine crise économique et financière, doublée de sanctions internationales. L'Organisation internationale des migrations a chiffré à 770 000 le nombre d'Afghans rentrés chez eux en 2018. Pour 46% d'entre eux, ce retour d'Iran a été volontaire. D'autres ont été expulsés. Laurence Hart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de mission de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations à Kaboul. Il y a déjà eu un plan de retour d'Afghans du Pakistan voisin, mais là, il s'agit du plus important mouvement de retour d'Afghans. Il touche quelle catégorie de personnes ?
Il y a certainement les personnes qui sont nées en Iran et qui sont vécues en Iran tout le temps, qui n'ont jamais visité l'Afghanistan. Il y a aussi les gens qui utilisent l'Iran en termes de passage vers d'autres pays. Il y a des personnes qui rentrent parce qu'en Iran, il y a moins d'opportunités économiques pour travailler là-bas et parce que quand même le travail est payé moins qu'il y a un an, par exemple. Les Afghans travaillent surtout dans les domaines de l'agriculture et de la construction et ils envoient pas mal d'argent dans le pays d'origine pour soutenir leur famille. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont attrapés parce qu'ils migrent d'une façon irrégulière. Et donc il y a toute une catégorie de personnes qu'il faut tenir en compte dans cette presque 800 000 personnes qui sont rentrées en Afghanistan. Donc l'équivalent aujourd'hui d'un travail en Iran ou en Afghanistan, c'est le même. Donc, ça ne vaut pas la peine de rester en Iran pour beaucoup de gens. C'est ça que nous disent les personnes qui rentrent à la frontière. Et c'est difficile. C'est difficile pour tous parce que, comme j'ai dit, le grand chiffre de retour en Afghanistan, qui est une économie quand même encore fragile, ne permet pas à toutes les personnes qui rentrent de trouver un travail. Donc, la réintégration, c'est le grand défi face auquel l'Afghanistan se retrouve.
Vous parlez d'un grand défi pour vous. Comment l'Organisation internationale des migrations va-t-elle gérer ces retour.
La première, c'est comment assister les personnes les plus vulnérables. Donc l'OIM, avec des partenaires, est présent aux frontières avec l'Iran et on donne l'assistance humanitaire nécessaire, c'est-à-dire couverture, tente, nourriture et, si nécessaire, aussi une assistance médicale, psychologique, parce qu'il y a différentes catégories de personnes qui arrivent à la frontière. Donc ça, c'est la première étape pendant un mois et demi peut-être. Mais le défi le plus important, c'est comment vraiment réintégrer ces personnes. Ce n'est pas seulement les personnes qui rentrent qui sont en condition de vulnérabilité. Ce sont les communautés d'accueil qui se trouvent aussi dans une situation de donner une assistance en termes, disons, concrètes. Ça veut dire comment générer de l'emploi, par exemple, comment faire en sorte d'établir de petites moyennes entreprises qui puissent bénéficier à la totalité de la communauté.
Laurence Hart, chef de mission de l'OIM à Kaboul. Pendant les 3 années de califat autoproclamé par le groupe État islamique, les femmes de Mossoul étaient des ombres drapées de noir, interdites de sortie et de parole. Avant cela, les coutumes ancestrales et un conservatisme bien ancré se dressaient déjà en travers de leur route. Aujourd'hui, la capitale de Ninive, carrefour commercial historique du Moyen-Orient, connaît un boom culturel. elle, de plus en plus de femmes s'invitent doucement dans l'espace public, soit en trouvant du travail aux côtés des hommes, soit en créant elles-mêmes leurs entreprises ou leurs commerces. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabila Hamel. Côté météo, ciel chargé cet après-midi sur la majeure partie de la France, à l'exception du quart sud-est et de la Corse. De la pluie de l'Alsace à la Gironde, en passant par la région centre, des flocons, de la neige sur la Savoie et la Haute-Savoie. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux à la technique, Pierrick Monsigny.